Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'idolâtrie, un thème qui réapparaît tout au long de la Bible.
Nous y réfléchirons en compagnie de Jean-Marc et nous verrons à quel point ce thème, qui peut sembler à première vue démodé, est en fait très pertinent et d'actualité. Bonjour Jean-Marc et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris ce qui s'est produit dans la ville d'Éphèse le jour où la bonne nouvelle de Jésus-Christ y fut annoncée. Éphèse était une ville où l'idolâtrie et la sorcellerie y étaient couramment pratiquées. Mais le Seigneur Jésus est puissant pour délivrer tout homme et toute femme de la domination des idoles et des mauvais esprits. Toutefois, ces nouveaux chrétiens durent continuer à vivre dans un milieu fortement idolâtre, un environnement hostile à la bonne nouvelle. De même de nos jours, nombreux sont les chrétiens plongés dans un contexte spirituel tout aussi maléfique, où le recours aux esprits mauvais, à l'occasion des pratiques occultes, est fortement enraciné dans leur culture. Comment le chrétien peut-il alors survivre dans un tel contexte? Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui.
Et que savons-nous de la foi des premiers chrétiens à Éphèse? Que pouvons-nous apprendre d'eux?
Nous savons que l'église d'Éphèse est devenue l'une des églises les plus importantes de la région. Nous savons aussi que l'apôtre Paul lui écrivit une épître, car sa lettre se trouve dans la Bible. Nous allons à présent écouter la lecture d'une partie de cette lettre, car elle nous instruit sur la question qui nous intéresse. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18.
Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu.
Merci Sandra. Alors Jean-Marc, dans ces versets, Paul se sert d'images tirées d'un champ de bataille.
C'est exact, Yann. Il s'agit d'un rappel que la vie chrétienne, et surtout en milieu fortement idolâtre, est une lutte, un combat. Si nous venons à Jésus-Christ avec l'idée que nous vivrons alors une vie facile et agréable, nous nous trompons et nous nous exposons à tous les dangers. Paul nous rappelle qu'il existe tout un monde spirituel maléfique qui s'oppose à Christ et qui s'oppose à ceux et à celles qui le suivent. Néanmoins, cette opposition est probablement plus acharnée et évidente encore dans les milieux où les pratiques occultes y sont fortement présentes.
Étant donné cet état de choses, quel conseil Paul adresse-t-il aux chrétiens?
Il exhorte tout chrétien à tenir ferme et à rester inébranlable face aux attaques de ses ennemis spirituels. Cela est possible, à condition de puiser toutes ses forces dans le Seigneur Jésus-Christ. Seuls, nous ne pourrions pas tenir quand nous sommes harcelés par nos ennemis, mais avec Dieu, nous pouvons demeurer fermes. Soyons rassurés, Dieu est plus fort, bien plus puissant que tous les mauvais esprits réunis. Lorsque nous cherchons refuge auprès de lui, lorsque nous plaçons en lui notre foi, il nous fortifie et nous permet de résister au sein même de la plus dure des épreuves.
Paul nous demande de nous revêtir de l'armure de Dieu. Que voulait-il dire par cela?
Oui, Paul continue avec l'illustration d'un combat et il compare ce que devrait être le dispositif de protection du chrétien à l'armure d'un soldat de l'armée romaine. L'arme principale de Satan et des puissances maléfiques est le mensonge. Par le mensonge, les esprits veulent nous effrayer, ils veulent nous faire douter que ce que Dieu déclare est vrai. Ils veulent enlever de nos cœurs l'assurance de notre salut, ils veulent anéantir notre engagement et notre zèle, ils veulent rendre notre témoignage inefficace et ainsi ternir la gloire de Dieu. Cependant, en ayant recours aux armes mentionnées par Paul, nous pouvons tenir ferme.
Parlez-nous alors davantage de ces armes.
Il est intéressant de noter que la vérité est la première. En effet, pour pouvoir contrer le mensonge, il faut connaître la vérité et désirer en être imprégné. Or, nous apprenons que la parole de Dieu est la vérité. Nous devons donc profiter de toute occasion possible pour apprendre ce que la Bible nous enseigne. Toutefois, une simple connaissance de la Bible ne suffit pas, car il faut profondément croire en ce qu'elle révèle. C'est pour cette raison que Paul parle de la foi comme d'un bouclier. Les mensonges du diable ne parviendront pas à nous faire du mal si nous croyons ce que Dieu nous annonce dans la Bible, si nous nous remémorons ses promesses et nous appuyons dessus. Pour Paul, l'élément essentiel de cette vérité est ce que la Bible enseigne sur le salut et la justice accordée par Dieu par grâce envers tout être humain. Nous devons nous souvenir sans cesse de ce que Dieu a accompli pour nous par le sacrifice de Jésus-Christ et de ce qu'il a réalisé pour nous par l'œuvre de son Esprit. Lorsque ces vérités merveilleuses sont devenues les nôtres, lorsque nous les gardons précieusement dans nos cœurs, les tentatives mensongères du diable contre nous pour nous accuser et nous culpabiliser ne peuvent réussir.
Ainsi, une bonne compréhension de la bonne nouvelle et un cœur tourné vers Jésus nous protégeront dans des milieux imprégnés d'idolâtrie et de pratiques occultes.
C'est exact. Et puis pour conclure, Paul souligne aussi l'importance de la prière afin de mener au mieux cette lutte spirituelle. En s'adressant à Dieu par la prière, nous lui exprimons notre dépendance envers lui ainsi que nos besoins les plus profonds. Par la prière, nous avons accès au Dieu merveilleux qui déploiera sa toute-puissance afin de nous fortifier au creuset du combat. Et il nous accordera aussi sa sagesse afin de fortifier nos convictions et notre foi face aux mensonges les plus divers, les plus pernicieux de nos ennemis spirituels.
Je remarque aussi qu'il nous faut intercéder, c'est-à-dire prier pour les uns et les autres.
Oui, nous devons mener une lutte avec chaque membre de l'Église et être solidaires. Un soldat isolé ne résistera pas longtemps aux assauts de l'ennemi. Mais s'il trouve autour de lui des rangs serrés, alors il sera plus fort et il se sentira plus protégé. De la même manière, un chrétien isolé aura plus de mal à tenir ferme. Le rôle de l'Église est alors de le soutenir, le fortifier dans ses luttes spirituelles. La prière les uns pour les autres est un moyen parmi d'autres pour que le chrétien puisse exprimer leur unité et combattre ensemble les influences trompeuses dans un environnement idolâtre et occulte.
Merci Jean-Marc pour vos enseignements clairs et instructifs. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Nous continuons notre série de méditations sur le fruit de l'esprit, basée sur un verset bien connu, trouvé dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Notre invité, Patrick, va dès à présent réfléchir sur la dernière qualité énumérée, la maîtrise de soi. Bonjour Patrick.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Nous avons appris la dernière fois que la maîtrise de soi désigne celui ou celle qui sait maîtriser ses désirs ou ses passions. Ceux qui savent renoncer à leur envie ou à leur appétit démesuré. Jésus lui aussi a été confronté à toutes sortes de tentations, celles qui peuvent nous assaillir, mais lui n'a pas péché, il a vaincu la tentation. Nous parlons ici des désirs pouvant assouvir notre appétit pour la nourriture ou pour les plaisirs sexuels. Dieu nous a créés avec ces désirs. Ils sont bons, ont leur place et jouent un rôle important dans la vie. Toutefois, si nous permettons à ces désirs d'occuper une trop grande place dans notre vie, ils pourraient devenir démesurés, nous pousser à commettre des actes mauvais ou à adopter des comportements destructeurs. Prenons la nourriture par exemple. Il est important de manger pour vivre et éprouver un certain plaisir en mangeant est agréable. Toutefois, si nous ne maîtrisons pas notre appétit pour la nourriture, nous pouvons en arriver à trop manger. Nous courons alors le risque de devenir obèses et de souffrir de divers problèmes de santé. Il en est de même pour la sexualité. Une fois de plus, elle tient une place importante dans la vie. Nous pouvons en jouir, mais à condition que ce soit selon les limites établies par Dieu dans sa parole, c'est-à-dire au sein du mariage. Si nos désirs sexuels nous poussent à dépasser ces limites, en pratiquant l'adultère, en fréquentant des prostituées ou en consultant la pornographie, alors ils sont devenus dangereux et destructeurs. Spirituellement, émotionnellement, mais ils peuvent aussi détruire notre santé et briser nos liens familiaux. La question se pose, sommes-nous dominés par nos passions ou bien parvenons-nous à les dominer? Est-ce que nous cédons à tous nos désirs ou est-ce que nous y résistons. L'apprentissage de la maîtrise de soi est essentiel pour se protéger de tout excès destructeur et pour honorer Dieu. Seuls, nous avons parfois du mal à faire face à l'intensité de nos mauvais désirs. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit. Il est Dieu avec nous, en nous. Par son esprit, le Seigneur peut produire en nous la maîtrise de soi. Il peut nous aider à faire des progrès vers une vie où nous maîtrisons nos passions. L'Esprit nous fortifie, il nous permet de résister à la tentation et d'en sortir plus que vainqueur.
Merci Patrick pour ces exhortations importantes. Il sera de retour parmi nous lors de notre prochaine émission et il apportera d'autres remarques sur le fruit de l'Esprit.
En attendant, nous le remercions pour sa participation et nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.